passé. Nous regardons vers l'avenir. Je suis totalement conscient que notre pays est à un stade où nous avons besoin de tout le monde sur le pont.
Les appels au calme se multiplient pour que le Kenya évite à tout prix une nouvelle crise post-électorale.
Merci beaucoup, Dili. À présent, le débat. Ici à Washington, avec moi, Karine Nantulia. Vous êtes directrice du plaidoyer à la division Afrique de Human Rights Watch. À Kinshasa, Dani Aïda, directeur pays du NDI. Vous êtes également analyste politique. Et à Dakar, plutôt à Londres maintenant, vous êtes à Londres, Ibrahim Khan, analyste politique chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine à l'OSIWA. Merci à tous d'être avec nous, Dani Aïda. Alors, William Ruto, le hustler, comme on l'appelle là-bas, ou le débrouillard, a eu raison du vétéran de la politique kényane qui espérait que la cinquième tentative serait la bonne. Alors, Ruto a-t-il été perçu comme étant plus proche du Kenyan ordinaire, bien qu'il ait été quand même vice-président pendant 10 ans?
Je pense qu'il a su mener une campagne qui s'est révélée efficace. Il provient d'une ethnie qu'on ne peut pas dire majoritaire ou dominante. Et il est assez rodé aussi en politique, contrairement à peut-être en comparant à Odinga. On pourrait croire qu'il est novice, mais ça fait au moins 3 décennies qu'il est d'une manière ou d'une autre impliqué. Je pense qu'il a su faire des propositions axées sur les Kenyans dans leur vécu actuel. Il a su également jouer sur la géopolitique kenyane en formulant des propositions axées sur les besoins des populations. Il s'est présenté comme un homme du peuple, un self-made politician. Donc tout cela a joué à mon avis et a déjoué même la carte politique kenyane telle qu'on l'a connue au cours des 2 ou 3 dernières décennies.
D'accord. Alors, Ruto qui se présente comme l'homme du peuple, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les questions sociales ont pris le dessus sur les autres considérations? Le président sortant Uhuru Kenyatta qui a soutenu son ancien rival, et Kenyatta qui fait partie de l'ethnie majoritaire, qu'est-ce qui a été déterminant pour vous, Karine?
Je pense qu'on peut parler de 2 ou 3 facteurs. Le premier étant qu'il y a qu'on a remarqué quand même une certaine apathie électorale. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a quand même que 65% de taux de participation de l'électorat kényan, qui est beaucoup plus bas que les années précédentes. Il y a aussi la question justement de, comme Dani vient de le dire, les messages qui ont été bien orchestrés, la mobilisation qui a été faite, et puis le fait que le président sortant ne s'est pas représenté non plus. Lorsqu'on parle par exemple de la question ethnique, elle a peut-être été camouflée, mais je pense qu'elle a toujours été là.
Vous avez vécu au Kenya, c'est toujours un facteur déterminant ou bien c'est juste une perception? Cette question ethnique.
Je pense que c'est un facteur important. C'est un facteur important. Je pense que la politique kényane est toujours identifiée, est toujours forgée quand même et influencée par ces considérations. Par exemple, le fait que avec les constituencies, la base du président sortant n'a quand même, c'est quand même tourné un petit peu vers l'autre candidat, Monsieur Ruto, est quand même assez interpellant.
D'accord. Alors, Ibrahim Khan, la victoire de William Ruto, si elle est confirmée par la Cour suprême, est-ce qu'elle aura le mérite de mettre fin au règne des dynasties politiques au Kenya?
Bon, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'ont beaucoup de gens qui ont voté pour Ruto espèrent. Mais on n'est pas encore sorti de la crise parce que Raila n'est pas resté en justice. Il a jusqu'à dimanche soir pour le faire et je crois comprendre qu'il va le faire. Et il me semble que, pour un peu ajouter à ce que Karine disait, que l'élection cette fois-ci, pour moi, a été aussi marquée par une sanction de tout ce que l'actuel président a fait. Son appui à Raila n'a pas été d'un apport décisif à Raila parce que beaucoup de Kenyans ne sont pas contents de la manière dont il a géré le pays, surtout au niveau de sa propre communauté. Et comme l'a dit, comment dirais-je encore,
Danny,
ma consoeur, c'est dans les, c'est dans les endroits où on espérait un apport l'adhésion de Uhuru à sa candidature, et cela n'a pas pu avoir lieu. Et donc, on s'achemine vers une situation où c'est encore la même classe politique qui va continuer à gérer le Kenya. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus dramatique, parce que on pense que Ruto est jeune et autres, mais quand on regarde ce qui entoure Ruto, c'est toujours la même classe politique qui va encore continuer à gérer le destin de cette population qui est immensément jeune, mais aussi un pays qui est immensément riche comparé aux autres pays de la région, malheureusement.
Alors, Danny, justement, le Kenya, qui est habitué un peu aux contestations et aux crises post-électorales, comment expliquer alors que le pays est considéré comme l'un des plus stables et démocratiques de la Corne de l'Afrique, la commission électorale qui a aussi utilisé cette année un système moderne avec des PV qui sont disponibles même sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que les rapports de force, vous savez, la constitution de la commission électorale est faite sur une base de contribution des différentes forces politiques, même si à la tête on prend un haut fonctionnaire de l'État. Il faut admettre que ces rapports de force ont joué jusqu'à l'intérieur de la commission électorale. C'est ça qui a mené à la défection d'une partie de cette commission-là. Et on peut aussi mesurer que, tout à l'heure, les collègues analysaient les facteurs qui ont contribué à la situation qu'on voit actuellement. Je pense que depuis 2 ou 3 ans, on voit dans le discours politique des acteurs une certaine, même au niveau de la population, c'est un besoin de changement qui s'est manifesté. Le candidat Ruto, par exemple, qui aussi a des partisans jusqu'à l'intérieur de l'appareil électoral, il a commencé une rupture assez tôt du président Kenyatta, et cela s'est fait remarquer. Donc ce besoin de changement ajouté au management. Maintenant, pour venir à votre question elle-même, je peux dire que la technologie appliquée par la commission électorale s'est révélée insuffisante. Ça veut dire que le capital humain, la capacité des gens à respecter les règles, la règle électorale, la règle de droit qui prévaut à l'organisation des élections, il y a encore des failles à ce niveau qu'il faut considérer. Au moment où quand on voyait l'argumentaire du président de la commission, comparé à ce que ceux qui ont fait défection disent, effectivement, il faut une tierce institution maintenant pour trancher tout cela. Et il faut dire qu'il ne suffit pas d'une technologie. On a plus de pays de la région.
D'accord.
Ils ont adopté la technologie également et leurs élections n'étaient pas exemptes de tout reproche.
D'accord. Alors, Karine, pour parler un peu encore du profil de William Ruto, c'est quelqu'un qui quand même a été inculpé par la CPI pour les crises post-électorales de 2007-2008. Tout cela ne semble pas peser négativement, en tout cas sur sa carrière politique, même si les charges ont été abandonnées ensuite. Comment est-ce que vous expliquez tout cela? Je sais que Human Rights Watch a rencontré quand même tous les candidats en juin.
Exactement, nous les avons rencontrés et j'aimerais peut-être faire remarquer que lorsque nous avons rencontré M. Ruto, il a fait quand même une déclaration assez intéressante en disant qu'il voulait vraiment une élection sans violence et qu'il allait vraiment s'y dévouer. Mais je pense que la question de la Cour, du mandat de la Cour pénale internationale, il faut qu'on se rappelle de deux choses. La première, c'est que M. Ruto est quand même député président depuis 10 ans.
Absolument.
Donc, il y a eu la société kényane a quand même a eu assez de temps pour justement, je ne dirais pas oublier, mais vivre avec le fait que quand même le top leadership du pays avait été accusé de crimes sérieux, y compris d'ailleurs le président sortant. La deuxième chose, je pense que dans une certaine section de la population, cette question est restée, ce qui expliquerait peut-être l'apathie électorale que nous voyons, où justement lorsque nous parlons aux Kenyans lambda, Nous avons déjà reçu des perceptions et des témoignages de gens qui disent, d'ailleurs il y a un article qui est sorti aujourd'hui, qui vous disent, oui mais on n'a pas voté parce que on ne veut vraiment pas. D'un côté on a un représentant de cette famille, d'une histoire politique qui n'a pas nécessairement l'appropriation ou la bénédiction d'une certaine partie de l'électorat, et puis de l'autre nous avons un homme que nous considérons quand même comme non crédible. D'accord. À cause de cette histoire.
D'accord. Alors, avant d'aller aux commentaires Facebook, Ibrahima Kane, justement, avant le scrutin, tous les candidats s'étaient engagés à ne recourir qu'aux voies légales, surtout qu'en 2017, la Cour suprême avait annulé la présidentielle sur la base de ces recours. Pensez-vous que ce processus continuera d'être pacifique et crédible?
Je pense que oui. Oui, parce que hier, la déclaration qui a été faite par Kaila est très claire. Il va suivre les voies légales et toute décision que la justice prendra, il la respectera. Et je pense que également, ils sont tous obligés d'accepter cette décision parce que les Kenyans ont vraiment veulent tourner la page de ces élections qui n'en finissent jamais, de ces histoires qui continuent d'émailler toujours les élections. Et les Kenyans veulent que l'on commence vraiment à s'attaquer à leurs problèmes et que l'élection soit juste un moyen de donner au pays ses dirigeants et de permettre à ses dirigeants de mettre en œuvre des programmes qu'ils ont proposés à la population. Donc, je pense que cette fois-ci, déjà la dernière fois, ça a été à cause certainement de l'annulation du vote, ça a été accepté par les autres. Et je pense que cette fois-ci, ça sera la même chose et que maintenant, on prendra une tendance vers le respect
des résultats
une fois que la justice aura donné sa décision finale.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Lasgasek à Dakar nous dit « Le Kenya est l'un des rares pays d'Afrique où le calendrier républicain est respecté et des élections sont régulièrement organisées. Nous pensons que le discours fédérateur du président élu et sa volonté de travailler avec tous les fils du pays apportera le calme et la sérénité dans ce pays. » Yao Marcelin à Abidjan écrit « En Afrique, les élections présidentielles sont les plus souvent sources de crise post-électorale car chaque camp revendique la victoire. J'espère que le Kenya nous fera l'économie d'une crise post-électorale. » Enfin, Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « Le discours de William Ruto misant sur les problèmes des jeunes et son souci de mettre fin à la domination politique des familles dynastiques des Kenyatta et des Odinga ont séduit les électeurs, aussi son âge, 55 ans, le rapproche un peu plus des jeunes. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Salut Dilly.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités en studio avec moi, Karine Nantulia, directrice du plaidoyer à la division Afrique de Human Rights Watch, à Kinshasa, Dani Aïda, analyste politique expert sur les questions politiques, et à Londres, Ibrahim Kane, analyste politique chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine à Osiwa. Merci à tous. Alors Dani, le Kenya fait partie quand même de trois organisations régionale, l'EAC, l'IGAD, le COMESA. Sa stabilité politique est donc cruciale pour la région. Comment l'élection de Ruto peut être vue sous cet angle-là?
Vous avez raison, le Kenya tient une place stratégique dans la région d'Afrique de l'Est. C'est le moteur du développement de la communauté appelée East African Community. Depuis quelques années, le Kenya, sur le plan de l'expansion régionale aussi, il y a des programmes stratégiques avec des pays voisins. On peut parler de la Tanzanie, on peut parler des relations assez bonnes avec l'Ouganda. Donc, et depuis quelques temps aussi avec la RDC. Donc, je pense que le reste de la région suit de très près avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce qui se passe en ce moment au Kenya. Il est vrai que le résultat final, si Ruto est élu président, est confirmé président, ou bien Odinga, les rapports avec un pays ou un autre n'aura pas la même intensité, la même valeur. Donc, je suis sûr que les intérêts changent d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on estime que Ruto est très proche de l'Ouganda, du leadership de l'Ouganda actuellement, et alors que le président Odinga, s'il est élu, il serait plutôt en train à continuer ce que le président Kenyatta faisait déjà en termes donc de politique régionale. Globalement, je veux dire que cette élection est scrutée avec beaucoup d'intérêt.
D'accord. Alors, Karine, en termes d'exemple ou d'impact pour cette région qui est quand même frappée d'instabilité, on pense à la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan. On peut parler de percée aussi des femmes dans cette élection. On ne parle que de la présidentielle, mais il y a beaucoup de femmes qui ont été élues. Donc, sur cette question des droits humains qui vous intéresse particulièrement, comment cette élection peut faire bouger les lignes dans la région pour vous?
Je pense d'abord que sur la question de l'émergence des femmes, il faut quand même le dire, qu'on a la participation et l'élection de femmes dans des postes de responsabilité comme gouverneur. Nous avons si je ne me trompe pas, il y a 7 gouverneurs, 3 sénateurs, 3 sénatrices, une vingtaine de parlementaires. C'est quelque chose.
C'est quand même très bas, toujours comparé à d'autres pays comme
Rwanda, par exemple.
Le Sénégal.
Voilà. Non, c'est bas, mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même progrès.
Absolument.
Lorsqu'on se rappelle que la constitution de 2010 kényane qui demande un tiers de participation de femmes, et jusqu'à présent on n'en a pas. Donc et le fait par exemple monsieur Odinga son running mate est une ancienne, a quand même été candidate au présidentiel de 2013.
D'accord.
Donc une certaine historique.
Mais sur le plan régional, qu'est-ce que ça peut... C'est un exemple peut-être qui peut faire bouger les lignes.
En termes de la participation des femmes,
oui,
ou
même
le processus électoral. Ben, je pense que le processus électoral, cette élection, il y a quand même, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a une certaine continuité. Il y a des parallèles que l'on peut établir avec l'élection précédente. C'est-à-dire, on a M. Odinga qui quand même conteste les résultats. Donc, on aura encore un processus judiciaire que l'on a vu en 2017-2018. Nous avons des questions de réformes qui restent non achevées, inachevées, que ce soit au niveau des réformes institutionnelles, nous avons des réformes au niveau des forces de sécurité, des violations sérieuses des droits de l'homme qui sont restées, auxquelles il n'y a pas eu de réponse de l'exécutif jusqu'à maintenant. Et puis finalement, nous voyons quand même, rappelons-nous que l'inspection générale de la police a par exemple sorti un communiqué que nous avons trouvé d'ailleurs assez intéressant, justement, en soulignant le fait qu'il n'y avait pas eu de violence durant cette élection. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que nous avons quand même aussi remarqué des attaques au niveau du point de vue digital, donc sur les social media. Voilà, et ça c'est quand même une tendance que l'on voit, que ce soit dans la région, que ce soit au niveau de l'Éthiopie, voilà, exactement.
Alors, Ibrahim Kane, en tant que chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine, comment est-ce que vous voyez le rôle du Kenya dans la stabilité régionale?
Mais c'est un rôle essentiel, un rôle important. Et je pense que si on doit juger les deux mandats du président Uhuru, c'est un peu la stabilisation de la situation dans son pays et aussi l'effort de placer son pays au cœur de toutes les stratégies de recherche de paix, les stratégies à caractère économique, même les stratégies d'ordre politique. Le Kenya a toujours joué un rôle important. Tout à l'heure, votre reportage a montré comment le Kenya a joué un rôle fondamental dans l'entrée d'un pays comme la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le Kenya, dans tout ce qui concerne la paix dans la région, est même en train de supplanter le rôle de l'Ouganda. Par exemple, le rôle que le Kenya a joué dans la crise éthiopienne, le rôle que le Kenya a toujours joué dans la crise sud-soudanaise. Et tout cela montre que le Kenya, si ce pays-là arrive à se doter d'un chef qui est accepté par tout le monde, peut continuer à jouer ce rôle important. Non seulement dans la sous-région, mais dans les relations internationales. Juste un élément pour vous montrer à quel point le Kenya est aujourd'hui un pays clé dans la recherche de la paix, en tout cas dans toutes les situations sur le continent. Récemment, le Kenya a été le pays membre du Conseil de sécurité à porter l'affaire de la mort des migrants subsahariens à Melilla devant le Conseil de sécurité. Il y a même eu une réunion privée du Conseil de sécurité sur la question. Ça n'a jamais eu lieu par le passé. C'est dire que le Kenya maintenant commence vraiment à jouer un rôle important dans les relations et interafricaines et internationales.
Et Dani, rapidement, il y a aussi cette question du M23 avec le processus de Nairobi. Comment est-ce que vous voyez le rôle maintenant du Kenya avec l'élection de Ruto?
Oui, à l'initiative du président Kenyatta, effectivement, Nairobi a accueilli une réunion pour autour des groupes armés qui se coulent à l'est de la RDC depuis des décennies. Il a été proposé qu'une force régionale soit mise en place, Banque de l'Afrique de l'Est, pour aider la RDC à pacifier, à stabiliser en tout cas cette région. L'élection de Ruto, je pense que le leadership au niveau du Kenya, c'est un leadership étatique. Donc on espère que de ce côté-là, il pourrait avoir une certaine continuité parce que c'est une question d'intérêt régional que la RDC soit pacifiée à l'Est pour que les grands projets interrégionaux puissent prospérer.
Je vais vous laisser peut-être le dernier mot puisque vous êtes l'invité en studio.
Merci Karine, beaucoup. Sur
cette question de la stabilité régionale, notamment dans les Grands Lacs, M23, d'autres groupes armés.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Dani et Ibrahima viennent de dire. La seule petite préoccupation, c'est vraiment l'importance qu'on doit accorder à la continuité du rôle justement au niveau de la politique étrangère que président sortant Uhuru Kenyatta a joué. On se rappelle que Monsieur Ruto, dans les slogans, dans sa mobilisation, a vraiment utilisé un petit peu un parallèle américain, je dirais.
Kenya Kwanza.
Voilà. Donc d'abord au niveau domestique. Et donc la question que l'on doit se poser justement, est-ce que le rôle que Monsieur Kenyatta a joué au niveau régional va-t-il continuer? Donc ça, c'est important.
Ibrahima, c'est une inquiétude que vous avez aussi, parce qu'on le soupçonne un peu d'être un peu trop nationaliste en 10 secondes.
Pas seulement trop nationaliste, mais Ruto n'a jamais montré d'ambition panafricaine pour son pays. Et ça, c'est vraiment dommage dans la mesure où le Kenya, vu sa position géographique, vu son poids démographique et son poids économique, doit quand même jouer un rôle important dans les relations et interafricaines et internationales.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Un débat que nous allons certainement poursuivre. On va suivre le processus politique au Kenya. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.